Xavier Besson.
Afrique Matin à suivre, reportage à la frontière, Rwanda-RDC, précisément entre Bukavu et Goma. En raison des différends entre les deux pays, le point de passage ferme désormais en milieu d'après-midi et cela perturbe les activités économiques. Une économie sur laquelle le FMI a beaucoup à dire, c'est celle du Gabon. Un rapport du Fonds monétaire international qui pointe que si le pays globalement reste au même niveau de richesse depuis plusieurs décennies, ses habitants, eux, sont de plus en plus pauvres. On parlera aussi services secrets et coup d'État avec notre invité Afrique ce matin, ancien directeur pour l'Afrique subsaharienne de la DGS. Les services secrets français à Paris. Et puis notre rendez-vous du vendredi avec Charlotte Tamac, la parlotte de Charlotte, d'ici une quinzaine de minutes. Mais tout de suite, ce sont les sports. Avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Et on commence par du basket, la course aux Jeux Olympiques. Le Cameroun est encore en vie. Sensation hier du côté de Riga en Lettonie.
Les Camerounais devaient absolument battre le Brésil, 12e nation mondiale. Et c'est chose faite, succès 77-74. Les trois équipes du groupe sont à une victoire et une défaite, mais c'est le Monténégro qui prend la porte en raison d'une moins bonne différence de points. Le Cameroun rejoint donc les demi-finales. Il est à deux matchs d'obtenir la première qualification de son histoire dans une compétition mondiale, et pas n'importe laquelle, les JO. Le sélectionneur Alfred Aboya se remémore le chemin parcouru.
Ces joueurs sont spéciaux. Ils sont en train d'écrire de nouveaux chapitres, de nouvelles histoires pour le basketball camerounais. J'ai joué ce tournoi il y a 16 ans. Nous n'avions pas remporté le moindre match. Mais avec ces joueurs-là, je peux me lancer dans n'importe quelle bataille. C'est un groupe de jeunes joueurs, en pleine confiance. Ils sont en mission et les Camerounais peuvent être fiers de leur équipe. Donc ça me rend fier de faire partie de ce groupe de bosseurs qui essaie de mettre le Cameroun à sa place au sein de l'élite.
On imagine ce qu'aurait été cette équipe avec un Joel Embiid s'il n'avait pas choisi les États-Unis. Le Cameroun jouera sa place en finale de ce tournoi de qualification olympique de Riga samedi, Xavier, contre la Lettonie à domicile.
Et en revanche, c'est terminé pour les trois autres sélections africaines qui étaient en lice dans ces tournois de qualification.
Deuxième défaite en deux matchs de la Côte d'Ivoire face au Mexique, 92-81. Même bilan pour l'Égypte, dominée par la Grèce, 93-71. Et pour l'Angola, Angola qui a échoué face au Liban, 74-70.
En football, Victor, à un an et demi de la CAN au Maroc, le tirage au sort des groupes de qualification a eu lieu hier à Johannesburg et les 48 équipes en lice connaissent leurs trois adversaires.
Avec un tirage clément pour la Côte d'Ivoire tenante du titre, elle affrontera la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Même chose pour le Cameroun qui sera opposé à la Namibie, au Kenya et au Zimbabwe. Le Maroc, futur pays hôte, jouera contre le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho. Autre favori, le Sénégal tombe dans le groupe du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi. Enfin, de son côté, la RDC hérite de la Guinée, de la Tanzanie et de l'Éthiopie. Un tableau complet à retrouver sur RFI.fr.
Le Tour de France a mis le cyclisme africain à l'honneur hier lors de la 6e étape entre Mâcon et Dijon.
8 jeunes coureurs du continent ont été invités en ce 4 juillet, le jour de la fête nationale au Rwanda. Un symbole alors que les championnats du monde y sont prévus l'an prochain. Ces coureurs ont pu pédaler sur les 30 derniers kilomètres de la 6e étape avant le peloton. Parmi eux, Mohamed Aziz, coureur tunisien. Il est actuellement en stage au Centre mondial du cyclisme d'Aigle en Suisse.
C'est un honneur pour tous les coureurs africains. Nous sommes là pour une stage de 3 mois avant le championnat du monde en Suisse. Nous sommes fiers d'être là sur le Tour de France. C'est un rêve pour moi, c'est un rêve d'enfance. J'ai regardé le Tour de France toutes les années sur les télés et maintenant je suis en direct. C'est un incroyable moment.
Et de son côté, Binyam Girmay poursuit son incroyable Tour de France, vainqueur de sa première étape lundi. L'Érythréen a failli rééditer l'exploit hier à Dijon. Il a terminé 2e de l'étape derrière le Néerlandais Dylan Groenewegen, vainqueur du sprint. Enfin en tennis, Ons Jabeur poursuit sa route à Wimbledon. La Tunisienne, double finaliste en titre, s'est qualifiée pour le 3e tour sur le gazon londonien. Elle a éliminé l'Américaine Robin Montgomery, 6-1, 7-5.
Merci Victor Missistrano. Et on rajoute pour Binyam Girmay qu'il est ce matin le maillot vert du Tour de France, le meilleur sprinteur du peloton.
Afrique Matin sur RFI.
Afrique Matin, l'essentiel de l'actualité internationale de ce vendredi 5 juillet, c'est le Royaume-Uni. Victoire sans appel aux législatives organisées hier pour les travaillistes après 14 ans dans l'opposition. Le chef du Labour britannique s'apprête à devenir Premier ministre donc aujourd'hui après une rencontre avec le roi. Le parti conservateur, lui, réalise son pire score depuis le début du XXe siècle. Les libéraux-démocrates redeviennent la troisième force du Parlement. Et autre surprise de ce scrutin, le parti anti-immigration et anti-système de Nigel Farage gagnerait pour la première fois environ 13 sièges. En Iran se joue le second tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, entre le candidat réformiste Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Élection organisée à la hâte pour remplacer le président ultra-conservateur Ebrahim Raisi, tué dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. Le taux de participation pour ce second tour sera décisif pour la crédibilité du futur président. Au premier tour, 60% des électeurs s'étaient abstenus de voter. Et nous commençons ce matin une série de trois reportages au Rwanda, pays qui votera dans 10 jours pour son élection présidentielle et ses législatives. On parlera demain, par exemple, de la problématique de l'accès à la terre pour les paysans, après-demain du chômage des jeunes. Mais ce matin, on s'intéresse à ce qui est une conséquence des mauvaises relations entre Kigali et Kinshasa. Une des conséquences, donc, c'est que depuis 2 ans, la frontière entre les deux pays, entre la ville congolaise de Goma et celle de Rubavu, côté rwandais, cette frontière ferme dès le milieu de l'après-midi et c'est un frein pour des activités commerciales autrefois florissante. Les habitants réclament un retour à la normale. Reportage de Lucie Mouillot.
Au cœur de la rue marchande de Rubavu, Gorette Wineza organise les grands sacs de marchandises installés à l'entrée de sa boutique.
Ici, je vends des graines de maïs, du sorgho, du soja et des haricots.
En cette fin de matinée, les clients congolais se dépêchent pour déjà retourner à la petite barrière post-frontalière entre Rubavu et Goma. Avant 2020, 50 000 passages journaliers y étaient enregistrés. Mais depuis 2 ans et la fermeture à 15 heures de la frontière en raison des tensions entre le Rwanda et la RDC, la rue marchande à quelques centaines de mètres de là tourne au ralenti.
On avait des clients même au dépôt, il y avait beaucoup de mouvements. Au marché, en combinant les vendeurs, on pouvait vendre à nous tous une demi-tonne de sacs par jour. Maintenant, même vendre 100 kilos, c'est difficile.
Un commerce transfrontalier indispensable pour l'économie de la ville. 3 étals plus loin, Moussa Babonamposé ouvre les portes de son entrepôt. Président d'une coopérative, l'homme d'affaires doit souvent aider les commerçants bloqués la nuit de l'autre côté de la frontière. Les limites d'horaire compliquent les échanges et ont réduit ses revenus de près de 30%.
Nous voulons la paix entre les deux pays, le Rwanda et le Congo. Que Dieu fasse que nos dirigeants s'entendent et que les commerçants profitent du retour au calme et que cela redevienne comme avant.
Une volonté pour les habitants, le retour de la fermeture à 18h de la frontière. Dans les écoles de la ville, l'impact économique se fait aussi ressentir. Jocelyne Mourekatete, directrice d'un établissement primaire de Rubavu.
La grande majorité des parents travaillent au Congo. Donc ça a été un peu difficile et financièrement. Avant, il y avait des parents qui arrivaient même à payer tout un trimestre ou bien toute une année. Mais aujourd'hui, ça demande de les forcer, appeler toujours. Vraiment, on souhaitait beaucoup que la situation revienne comme avant. Ça peut vraiment beaucoup nous aider.
La fermeture quotidienne anticipée de la frontière a chamboulé depuis 2 ans la fréquentation de l'école. Élèves et professeurs congolais ont pour beaucoup quitté l'établissement. D'autres ont dû déménager au Rwanda pour continuer à suivre leur classe. Lucie Mouillot, de retour de Rubavu, RFI.
Et demain, à la même heure, le reportage Afrique sera encore au Rwanda pour parler cette fois de la problématique de l'accès à la terre pour les paysans. Un pays qui reste stable économiquement, mais des habitants qui, eux, sont de plus en plus pauvres. C'est la situation que décrit le Fonds monétaire international pour le Gabon. Une étude au temps long, puisque les économistes du FMI ont analysé l'évolution de l'économie gabonaise depuis les années 1970. Il conclut que le pays a besoin d'abord de plus de transparence et d'une meilleure maîtrise des dépenses. Afrique Éco avec Yves Laurent Goma à Libreville.
Selon le rapport, le Gabon reste un pays à revenus intermédiaires, mais ses populations s'enfoncent dans la pauvreté, résume Gomez Agou, représentant du FMI.
On s'est rendu compte qu'il y a eu un recul du niveau de revenus. Pour vous donner un exemple, au Gabon, si un habitant en moyenne gagnait 100 000 francs CFA en 1990, aujourd'hui, ce même habitant gagne à peine 80 000 francs CFA. Ce recul du revenu s'est accompagné de deux éléments importants au Gabon. C'était l'accroissement du chômage et l'accroissement de la pauvreté. Le chômage aujourd'hui est autour de 35 à 40% au sein de la population en âge de travailler. Et la pauvreté, c'est un Gabonais sur trois qui est pauvre.
Autre indicateur négatif, le taux d'endettement qui dépasse le seuil de 70% du PIB fixé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC.
Nous avons donc regardé la situation de la dette du Gabon qui aujourd'hui se situe en 2023 à 70,5% du PIB. Donc c'est un taux d'endettement très important parce que si le rythme d'endettement avant le 30 août 2023 se poursuit dans les années à venir, la dette du Gabon pourrait atteindre dans 4 ans ou 5 ans 100% du PIB.
Pour corriger cette situation, le FMI formule plusieurs recommandations.
Le Gabon doit bien gérer ce dont il dispose. Ce dont le Gabon dispose, ce sont des ressources pétrolières et minières qui sont importantes, sur lesquelles malheureusement, pendant des décennies, il n'y a pas eu de transparence. C'est l'heure de rétablir toute la transparence sur la gestion de ces ressources-là. Il faut publier par exemple les contrats de pétrole et les contrats miniers. Il faut s'assurer qu'il y a un audit du secteur, collecter l'impôt et les droits de douane et réduire le rythme de dépenses de l'État.
Lors d'une cérémonie conjointe avec le FMI, le ministre de l'économie, Maïs Moïssi, a fourni quelques explications.
Nous continuons notre stratégie avec la volonté de faire en sorte que notre pays maîtrise ses déficits, maîtrise l'inflation et maîtrise son endettement. Ce que le FMI demande, c'est d'être déjà plus transparent sur les recettes pétrolières et minières. C'est la raison pour laquelle il y a toute une réflexion sur le volet contractuel, voir comment nous pouvons rendre public, y compris les contrats liés à ce domaine.
Le FMI félicite le gouvernement de transition pour avoir volontairement mis à sa disposition, en toute transparence, la documentation qui a permis d'élaborer ce rapport. Il souhaite que Libreville s'active à appliquer ses recommandations pour améliorer durablement les performances économiques du pays. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Et on va parler maintenant services secrets et coup d'État avec notre invité Afrique ce matin, Jean-Pierre Roger, auteur du livre Afrique à Dieu et qui a été en poste au Niger, au Tchad et en Côte d'Ivoire avant de diriger le secteur Afrique noire de la DGSE, les services secrets français à Paris. Christophe Boisbouvier l'interroge sur les putschs de ces dernières années au Sahel qui ont visiblement pris de court les services français et lui demande notamment si les reproches adressés à la DGSE sont justifiés.
Écoutez, ce que je sais, c'est que il est très difficile de déterminer le jour d'un putsch. Les complots, les Africains qui se livrent à ce genre d'exercice, généralement s'y prennent au dernier moment, ce qui explique que nombre de complots échouent, parce que c'est toujours dans la précipitation. C'est pour ça que ça me paraît pas très justifié de dire ils ont pas prévu le complot. Quand quelque chose ne va pas, faut bien trouver un coupable.
Alors, autre pays africain où vous avez été en poste, la Côte d'Ivoire, un putsch y surprend la France, c'est celui de décembre 99 contre le président Bédier. Est-ce que vous avez vu venir quelque chose?
Alors, je n'ai pas vu venir le putsch. D'ailleurs, même le putschiste était un peu un putschiste malgré lui, le général Gay. On est venu le chercher. En revanche, j'ai senti que le régime Bédier était quand même pas très solide, on va dire ça comme ça. Et j'ai envoyé des choses qui devaient peut-être un peu surprendre. Et je me suis rendu compte assez vite, donc, que ce président Bédier, c'était pas au fait de Boigny. Voilà. Alors, a-t-on tenu compte de mes, je le pense, de mes mots, mais de là à dire que quelques soldats se mutineraient un jour pour être mieux payés et entraîneraient avec eux la chute de Bédier, je vous dis, ces putsch et complots partent de pas grand-chose parfois. Hein. Une étincelle, un mécontentement, et c'est parti, hein.
L'ex-chef espion français Jean-Pierre Roger entretient avec Christophe Boisbouvier à écouter en intégralité dans une heure et à retrouver sur RFI.fr. Et comme tous les vendredis, c'est le moment où l'on retrouve Charlotte Ntamack pour la parole de Charlotte. Vous nous dites ce matin, Charlotte, que ce que monsieur déteste par-dessus tout, c'est accompagner madame faire ses courses.
Eh oui, avez-vous remarqué que lorsque madame fait ses courses, juste à côté, monsieur tire la tronche. Lorsque je parle de monsieur qui accompagne madame, je parle de ce monsieur avec sa vraie dame et non pas le monsieur enthousiaste qui, au centre commercial, dépense sans compter avec cette dame qui n'est pas sa dame ou dont il espère faire sa dame. Ni de cette dame contente de faire du shopping avec ce monsieur qui qui est le monsieur du Notre-Dame? Si madame aime bien que monsieur l'accompagne pour l'aider dans ses choix, très souvent monsieur est là parce qu'il n'a pas le choix. Que je t'accompagne faire tes achats. Hein. J'ai dit, hein, on va durer là-bas. Pendant que madame défile entre les rayons, s'arrêtant sur chaque article, monsieur, en poussant le caddie, n'arrête pas de regarder sa montre. Et lorsque madame lui demande son avis, si elle pouvait lire dans ses pensées, elle entendrait « Ouais, la femme s'y me paie même le temps, pourquoi ?»« Que oh, mon lait de beauté est fini. On a fini depuis au rayon cosmétique. On fait quoi maintenant au rayon décoration ?» Hein? Parce qu'elle voit qu'il n'est pas content d'être là, madame est parfois obligée de le virer de ses achats. Pardon, va m'attendre dans la voiture. Ou même au bar d'en face, faut pas me stresser. Je te fais signe quand j'ai fini. Le jour où monsieur a la bonne mauvaise idée d'aller faire des courses pour madame sans madame, le voilà qui ramène un article que même s'il la voit jubiler de joie, elle est contente de l'intention, mais pas de cet article qu'elle ne portera jamais pour rien au monde. Mais chérie, comment tu n'as jamais porté la robe que je t'avais achetée l'année surpassée là? La robe là, mon amour, tu sais que je ne peux pas porter ton cadeau n'importe comment. J'attends une occasion spéciale. Tu m'étonnes que lorsque madame n'a pas le temps de faire ses courses et qu'elle lui dit « Chérie, tu rentres bientôt. Tu peux t'arrêter au supermarché pour m'acheter quelque chose. » Elle est souvent obligée de rajouter avant qu'il ne raccroche « Chérie, pardon, quand tu es devant le rayon, fais-moi la vidéo pour que je vois avant que tu n'achètes. » Si monsieur se dirige, lui, directement vers l'article, puis fonce vers la caisse comme s'il fuyait quelque chose, madame n'achète jamais sans lire la composition, le mode d'emploi, la date de péremption, le taux de cholestérol, le nom du fabricant. Madame a besoin, monsieur, de faire le tour des magasins, quitte à revenir au premier magasin visité avant d'effectuer un achat. Soyons clairs, messieurs, ce n'est pas parce que ça s'appelle faire des courses que nous allons faire nos courses au pas de course, hein? Bonnes vacances et à la rentrée.
Merci Charlotte Ntamack. Et en effet, on se retrouve à la rentrée après des vacances méritées. Pour l'instant, restez avec nous dans une minute sur RFI, RFI Matin avec toute l'actualité internationale. Et merci à Oscar Jouxtel à la réalisation de cette demi-heure qui vient de s'écouler.
Ce dimanche sur RFI, idée Pierre-Edouard Deldic.
En pleine crise politique, nous allons cette fois parler des jours heureux qu'a connu la France ces trois derniers siècles avec l'historien Jean Garrigue.
J'ai choisi d'aller plutôt du côté lumineux de notre histoire et montrer à quel point à certains moments nous avons su rêver ensemble et donc célébrer ensemble ce rêve d'avenir.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI. Le Festival international Nuit d'Afrique, le rendez-vous des musiques du monde au Canada, se tient du 9 au 21 juillet à Montréal. Au programme, concerts et activités, en salle et en plein air, avec plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Une expérience festive et riche en découvertes pour un voyage musical planétaire. Plus d'informations sur festivalnuitdafrique.com, en partenariat avec RFI.